France Inter.
Bonjour à tous. Les organismes mis à rude épreuve par la vague de chaleur, des températures que le corps n'est pas habitué à gérer, pas plus que les écosystèmes, eux aussi perturbés. Poussé à bout par un désaccord, il a craqué, voilà ce qu'explique l'agresseur présumé du maire gravement blessé en Isère. Il nie avoir voulu le tuer. Des négociations à toute vitesse sur la possible abrogation de 2 jours fériés en France et des partenaires sociaux mis sous pression par un gouvernement pressé d'évacuer un dossier hautement politique. Benjamin Netanyahou prend de court l'ONU et sa réunion sur le plan d'Israël pour occuper Gaza. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien annonce qu'il prendra la parole au même moment, alors que les condamnations à son encontre pleuvent à l'international. Une poignée de centimes par mois, c'était le loyer payé par certains Égyptiens depuis des années pour se loger. Système dérisoire qui prend fin et qui bouscule les habitudes des locataires et des propriétaires. Et puis c'est un match que les fans de foot anglais ne veulent pas rater. Liverpool contre Crystal Palace pour le Community Shield aujourd'hui, le grand gala du football outre-Manche avant la reprise de la saison. La météo, Virginie Hilson-Lévy, elle s'annonce très estivale aujourd'hui.
Oui, du soleil partout, de très fortes chaleurs dans le sud. Je vous donne tous les détails dans quelques minutes.
Et on vous retrouve à la fin de ce journal.
France Inter.
40, 41, 42 degrés. Les températures n'en finissent pas de grimper en France, tout comme le nombre de départements en vigilance canicule. La vague de chaleur écrase une large moitié sud du pays. Et ce n'est pas fini. Le thermomètre risque d'afficher des valeurs encore plus élevées demain, avec des records peut-être battus, notamment dans le sud-ouest. Ce nouveau pic de chaleur n'est pas sans conséquence sur la santé, comme l'explique ce médecin du Gers à Saint-Mathan. Le docteur Philippe Roux s'inquiète surtout pour les plus fragiles.
Nos personnes âgées en particulier sont fatiguées. On a de plus en plus de décompensations cardiaques, de décompensations respiratoires, parce que ça fatigue. Enfin, on dort moins bien. Moi, je pense que ça fatigue tout le monde, mais que la différence entre une personne âgée et une personne jeune, c'est qu'elle n'a pas de marge de sécurité. Un être humain normal, il va attraper une grippe, il va être malade, il va être fatigué, mais bon, ça va, quoi. Il a des réserves, il va reprendre. Une personne âgée qui est déjà limite, ça va la pousser dans le mauvais sens. Vous savez, la sédentarité est une grosse cause de mortalité, et là, vous êtes obligé de rester chez vous, vous pouvez pas sortir, vous pouvez rien faire. La fatigue se fait sentir, et les gens décèdent, on a l'impression, après nous, c'est à notre échelle, hein. Mais là, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de décès, là, depuis quelques semaines.
La chaleur qui pèse sur les organismes, mais aussi sur les paysages, sous l'effet de la canicule et de la sécheresse qu'elle entraîne. Il change parfois complètement de visage. Exemple près de Tours, dans les jardins du château d'Azay-le-Rideau. Reportage ici Touraine, Alexandre Rubin.
Pour observer la première conséquence du dérèglement climatique, ici à Azay-le-Rideau, il suffit de se balader autour du miroir d'eau qui entoure le château.
Cet étang est complètement envahi par la lentille d'eau, donc il est complètement opaque et donc ne remplit plus son office de miroir.
Des algues qui se développent très vite à cause des températures plus chaudes et d'un niveau de l'eau assez bas. Benoît Grécourt est administrateur du château d'Azay.
Là, pour le coup, on trahit en quelque sorte la volonté du paysagiste du 19e siècle qui a transformé cet étang en miroir, puisque là, il n'y a plus du tout de reflet.
Résultat, un couple de cygnes va être adopté dans les prochains mois. C'est un animal qui raffole de ces algues invasives. En attendant, le chef jardinier du château s'occupe de faucher ces algues.
C'est quelque chose qui est à réaliser de manière hebdomadaire, 4-5 heures par semaine pour pouvoir endiguer le problème.
Autre conséquence du changement climatique, de nouvelles espèces de plantes ont fait leur apparition dans le jardin du château.
Cette plante-là, c'est une plante vivace qui s'appelle la gora, et ça vient d'Amérique. Et donc ça, c'est pas forcément une plante qu'on aurait retrouvée dans un jardin de type anglais du 19e siècle, il y a encore 10 ou 15 ans, et qu'aujourd'hui, on plante volontiers parce qu'elle est peu gourmande. Dans l'eau.
À cela s'ajoute le défi de garder une température agréable dans les salles, mais les visiteurs sont toujours là à Azay-le-Rideau, et particulièrement cette année avec 5 à 10% de fréquentation en plus par rapport à l'année dernière.
Et on rappelle que 42 départements sur une large moitié sud de la France sont en vigilance orange canicule aujourd'hui, ils seront 46 demain. On en sait plus sur ce qui a motivé l'agression du maire de Villeneuve-de-Marc en Isère. L'élu violemment attaqué en milieu de semaine dans sa commune avec son fils avait été gravement blessé. Le principal suspect, un habitant du village, est poursuivi pour double tentative de meurtre, a annoncé ce matin le procureur de Grenoble. Interpellé 2 jours après les faits, il a livré aux enquêteurs ses explications, Marion Aquilina.
C'est bien cette histoire de conflit d'urbanisme qui oppose le maire de Villeneuve-de-Marc à cet habitant. Un désaccord sur un bâtiment partagé avec la municipalité depuis 2022, mais aucune solution n'est trouvée. Et c'est l'origine de l'agression selon le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteau.
Il n'a cessé de répéter durant les 3 auditions qu'il était victime d'une injustice.
Il passe devant chez le maire le 6 août après-midi. Il a regardé le maire et qu'il a considéré que le maire l'avait regardé, je cite, avec un sourire sadique. Il explique qu'il rentre chez lui et, je le cite, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'accumulation des choses qui m'a fait péter un plomb. » En tout cas, ça va le conduire à se saisir d'une ferraille dans son atelier, un morceau de ferraille, donc pas un tournevis, et de remonter en direction de chez le maire. Et le maire est toujours en train d'enlever son lierre sur la voie publique et il le frappe aussitôt.
Cet homme âgé de 60 ans passe ensuite 36 heures caché dans les bois jusqu'à son interpellation. Le parquet indique qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. Il reconnaît la gravité de son geste, mais nie l'intention de tuer. Ni le maire de la commune, ni son fils.
Une agression qui avait valu 15 jours d'interruption totale de travail au maire. 15 migrants retrouvés frigorifiés dans un camion de transport dans le Pas-de-Calais. Le véhicule devait rejoindre le Royaume-Uni. Les exilés en hypothermie ont été secourus après avoir passé plusieurs heures dans le froid de la remorque, Mathis Caron.
Ces migrants originaires d'Érythrée sont entrés dans le camion frigorifique au milieu de la nuit entre vendredi et ce samedi. Mais d'après la préfecture du Pas-de-Calais, c'est seulement des heures plus tard, en début d'après-midi, hier, que le conducteur du véhicule a décidé d'appeler la gendarmerie. Les exilés criaient et tambourinaient sur les parois de la remorque. C'est ce qui a alerté le chauffeur. Les forces de l'ordre sont intervenues sur l'aire de Saint-Hilaire-Côte, sur l'A26, près de Béthune. Lorsqu'ils ouvrent la caisse du camion, tous les migrants sont en hypothermie. Les secours sont parvenus à les réchauffer, mais quatre d'entre eux ont dû être transportés à l'hôpital. Les services de police ont commencé à interroger hier toutes les personnes retrouvées dans le véhicule pour comprendre comment elles sont montées à l'intérieur. Mais la barrière de la langue complique les échanges, précise la préfecture.
Mathis Caron, ici Nord pour France Inter. Les indépendantistes du FLNKS en Nouvelle-Calédonie rendront leur décision mardi concernant l'accord de Bougival, réuni hier en congrès. Ils se sont positionnés concernant ce texte signé il y a un mois avec l'État et fixant les contours de la souveraineté de l'archipel. Il y a peu de suspense avant ce congrès, le FLNKS affichait déjà sa vive opposition à cet accord. Après le cap fixé hier sur l'assurance chômage, le gouvernement a dévoilé ce matin aux partenaires sociaux ses orientations concernant la suppression de 2 jours fériés. Cette mesure proposée par le Premier ministre vise un rendement de plus de 4 milliards d'euros sur le budget de l'État. Et le gouvernement semble bien décidé à négocier à marche forcée pour que ce dossier soit réglé à la rentrée, car le calendrier, Claire Chaudière, donné aux partenaires sociaux est extrêmement serré.
Si négociation il y a sur ce sujet des jours fériés supprimés, elle doit s'achever au plus tard le 30 septembre, deadline inscrite dans le document que nous avons pu consulter. Les recettes générées devront atteindre 4,2 milliards d'euros dès l'an prochain. Salariés du privé et du public concernés, ils ne seraient pas payés plus pour travailler ces jours-là et les employeurs s'acquitteraient d'une contribution versée à l'État. Le lundi de Pâques et le 8 mai sont donc pressentis, mais si les partenaires sociaux avaient d'autres suggestions, elles seraient recevables, dit Matignon, qui propose de discuter d'aménagements possibles dans les entreprises, mais sans contournement du dispositif. L'exécutif qui demande aux partenaires sociaux une réponse sur la tenue de cette négociation avant le 1er septembre, date justement à laquelle les principales centrales syndicales ont prévu de se réunir, elles l'ont dit hier soir, dans un communiqué commun au vitriol, pour décider de la réponse à apporter aux différents chantiers budgétaires qui s'accélèrent en pleine période estivale. Chantier, disent-elles, ouvrant grand les porte, je cite, du musée des horreurs de la stigmatisation des demandeurs d'emploi et des travailleurs.
Une précision, Claire Chaudière, service économie de France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Flore Catala.
La participation du président ukrainien au sommet Trump-Poutine est-elle vraiment inenvisageable? D'après le média américain NBC, la Maison-Blanche réfléchit à inviter Volodymyr Zelensky en Alaska vendredi prochain. Peut-être le résultat des discussions menées hier entre les leaders européens et américains. L'Europe a réitéré l'importance de laisser l'Ukraine libre de choisir son destin et appelle à maintenir la pression sur la Russie. Malgré ce sommet, il faut tout de même se méfier de Vladimir Poutine, rappel de son côté, le général Dominique Trinquant, ancien chef des missions militaires françaises à l'ONU.
Il cherche aussi à gagner du temps. Il est étonnant que cette proposition de négociation arrive juste au moment où un ultimatum avait été fixé par M. Trump au 8 août. Et d'un seul coup, on n'en parle plus, puisqu'il y a une entrevue prévue le 15 août. Donc je pense que tout ça, c'est de l'illusion et que M. Trump va une nouvelle fois se trouver devant le mur Poutine, qui ne va faire aucune concession. Alors, Monsieur Trump se fait avoir une nouvelle fois par Monsieur Poutine après une réunion avec Monsieur Witkoff. Il faut rappeler que chaque fois que Monsieur Witkoff est allé à Moscou, il est revenu avec le langage de Monsieur Poutine. Et donc là, il a accepté une réunion sur le territoire américain en Alaska, avec des positions, encore une fois, proches de M. Poutine, c'est-à-dire des échanges de territoires qui, en fait, sont une illusion, parce que les territoires échangés sont des territoires ukrainiens de part et d'autre.
Dominique Trinquant, invité de France Info ce matin. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour condamner en cœur le plan d'occupation de Gaza voulu par Israël, son premier ministre Benjamin Netanyahou prend les devants sur la communauté internationale en annonçant une conférence de presse inattendue cet après-midi, le jour même où l'ONU doit se réunir en Conseil de sécurité afin de réagir au projet militaire israélien pour le territoire palestinien. Mais Alice Moreno, peu d'actions concrètes risquent de ressortir de cette réunion.
Cette réunion a pour but d'évaluer les conséquences humanitaires potentielles de la prise de contrôle totale de la bande de Gaza par Israël et de marquer un rejet du plan israélien. Une initiative saluée par le représentant de l'autorité palestinienne aux Nations Unies, mais ici, peu de Palestiniens croient à un impact réel sur le terrain. Côté israélien également, les opposants au plan de Netanyahou ont très peu d'espoir, à moins que les États-Unis, membres du Conseil, ne se joignent à la condamnation. Or, il est très peu probable que cette session aboutisse à une résolution. Les États-Unis vont sans aucun doute opposer un veto, bloquer toute initiative. Si le président américain Donald Trump n'a pas apporté un soutien clair au gouvernement israélien pour cette nouvelle phase de l'offensive, il a toutefois déclaré « c'est à Israël de décider ». On est donc très loin d'une opposition. Sur le terrain, le chef d'état-major Eyal Zamir inspectait ce matin les quartiers généraux de l'armée pour s'assurer de leur préparation à l'offensive. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou tiendra quant à lui une conférence de presse cet après-midi qui débutera quasiment au même moment que la réunion du Conseil de sécurité. À Ramallah, Alice Moreno, France Inter.
L'Égypte met fin à un système locatif en vigueur depuis des décennies dans le pays, mis en place sous Nasser au milieu du XXe siècle. Il consistait en des contrats transmissibles et immuables de génération en génération, avec des loyers fixes aujourd'hui devenus incroyablement bas. Alors pour sortir de cette incongruité, une loi vient d'être actée pour réévaluer ces loyers progressivement d'ici 7 ans et à terme annuler ces contrats pour les usages résidentiels. Accueil mitigé au Caire, Justine Babin.
Dans le quartier populaire de Daher, érigé au 19e siècle dans l'ouest du Caire, de nombreux appartements sont encore sous ancien loyer. La cinquantaine, Rami vit depuis toujours dans l'appartement à l'origine loué par son père en 1981. Il paie 7 livres par mois, soit désormais l'équivalent de seulement 10 centimes d'euros.
Notre problème n'est pas la hausse des loyers, au contraire. Le gouvernement a eu tort de la retarder autant. Les propriétaires ont beaucoup perdu. Le problème est que lorsqu'ils ont voulu rééquilibrer la situation, ils ont fait n'importe quoi. L'idée d'annuler tout le contrat n'est pas bonne. Les deux parties ont signé ce contrat en connaissance des conditions.
Dans un autre quartier de la capitale, la mère de Sherif Morieldine Bachir n'est pas de cet avis. Elle est copropriétaire de 6 appartements qui lui rapportent au total moins d'un euro par mois.
Ma mère est très contente car elle avait l'impression d'avoir acheté un bien sans valeur. Il y a des gens qui disent « on n'a pas les moyens ». En réalité, ce sont des commerçants, ils ont de l'argent mais ils ne veulent pas quitter le centre-ville.
Pendant la période de transition, des comités doivent être formés pour préciser le montant des hausses immédiates de loyers. Justine Babin, Le Caire, France Inter.
Et plus d'un million et demi de foyers égyptiens bénéficiaient de ce système. C'est le match de foot de l'été chez les Anglais, le Community Shield, une rencontre qui oppose le vainqueur du championnat à celui de la Coupe d'Angleterre la saison dernière. Cet après-midi, ce sera donc un choc Liverpool-Crystal Palace sur la pelouse de Wembley. Un match ancré dans les traditions du foot anglais et qui attire les foules de supporters, José Charles.
Ils seront presque 80 000 fans présents à Wembley cet après-midi pour ce Community Shield. Un titre est en jeu, ce fameux trophée en forme de bouclier. Mais la rencontre représente surtout une grande fête du football anglais, comme l'explique Paul Dietschy, historien spécialiste du football.
Ce match, il date de la fin du 19e siècle. Bon, il a pris des formes diverses, mais il plonge ses racines finalement dans le pays qui a inventé le football, qui a inventé le professionnalisme, l'amateurisme. Donc on se célèbre un peu soi-même.
L'une des traditions fortes de ce Community Shield est son engagement caritatif. Chaque année, c'est environ 500 000 livres sterling qui sont reversés à des associations au Royaume-Uni. Une partie directement par les clubs, le reste via la fédération. Une manière aussi de donner une bonne image du football anglais.
Évidemment, ça a le sens de le football, c'est pas seulement le fric, c'est aussi quelque chose qui unit et dans lequel eh bien, les plus forts peuvent aider les plus faibles.
Pour Liverpool, club le plus dépensier d'Europe sur ce mercato estival, la rencontre servira de dernier grand test, comme le souligne Marc Alfacre, du groupe officiel des supporters de Liverpool en France.
C'est plus un match un peu de gala et qui vraiment, pour le coup, lance la saison footballistique en Angleterre. C'est plutôt vu comme ça.
Premier grand rendez-vous donc qui pourrait aussi permettre à Crystal Palace de remporter ce trophée pour la première fois de son histoire.
Coup d'envoi à 16h, la météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Et bonjour Virginie Ilson-Lévy.
Bonjour à tous.
Ce dimanche, soleil et chaleur intense.
Oui, ciel bien bleu pour tout le monde, comme hier, des orages possibles en fin de journée des Pyrénées aux Alpes, au Jura et aux Vosges. Le Mistral se lève en vallée du Rhône, 50 km/h en rafale. Et avec la chaleur, les sols secs, le risque d'incendie est élevé à très élevé. Et cet après-midi, il va faire même encore un petit peu plus chaud au sud, 35 à 39 degrés sur ces régions, de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Entre Hérault et Var jusqu'au sud de l'Ardèche et de la Drôme, les 40 degrés seront fréquemment atteints et parfois même dépassés.
Et plus au nord, la chaleur est plus supportable.
Grâce à un vent léger d'est, les maximales seront comprises entre 26 et 32 degrés. Un peu moins chaud en bord de Manche, 22 à 25 degrés. Et lundi, les très fortes chaleurs vont gagner les régions au nord, 30 à 36 degrés prévus. Elles vont se maintenir à un niveau très élevé encore pour la moitié sud.
Merci Virginie Ilson-Lévy, spécialiste météo et climat.